Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Imaginez quelques instants que l'on vous annonce à la radio la destruction du château de Versailles, d'une aile de la Bibliothèque nationale de France ou bien du palais du Louvre, destruction opérée par une armée en campagne. La nouvelle vous semblerait invraisemblable, d'autant plus s'il s'agissait d'une armée venant d'un pays qui tenterait de surcroît d'introduire de la drogue ou des substances illicites sur le territoire national. Cette histoire folle, inimaginable, nous dirions, a eu lieu au siècle dernier, bien loin de chez nous, en Chine, très exactement, les 7 et 8 octobre 1860. Aboutissement d'une mission franco-anglaise, le sac du palais d'été des empereurs de Chine fait partie des pages les plus sombres de notre histoire européenne. L'émission, un jour dans l'histoire, n'a jamais participé aux repentances en tout genre, son objet n'étant pas de pointer du doigt les faiblesses des hommes et des nations, permanence de tous les âges, mais plutôt de démontrer les causes et les conséquences des événements, de les expliquer dans le temps, de restaurer en cela l'histoire chronologique et parfois, oui, de tirer des leçons de cette maîtresse de vie et de vérité qu'est l'histoire. Je vous propose aujourd'hui de saisir cet événement irréparable que fut le sac du palais d'été en Chine. Comment l'armée française, bien loin de ses bases, se retrouvera-t-elle aux côtés d'Albion pour lutter contre le pouvoir impérial chinois? Comment la France, qui se proclamait mère de la civilisation occidentale, descendit si bas en participant au pillage d'un des monuments du patrimoine chinois? Quelles furent les raisons de cette expédition et ses conséquences pour la Chine? Autant de questions auxquelles Bernard Brisé va pouvoir nous répondre aujourd'hui. Bernard Brisé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Vous êtes historien, journaliste au Figaro et auteur d'une monographie consacrée au sac du palais d'été, parue en 2003 aux éditions du Rocher. C'est une monographie qui a beaucoup de succès, notamment outre-Atlantique, puisqu'elle va être traduite en anglais et bientôt, pourquoi pas en Chine. Et vous nous disiez hors antenne qu'il y a la possibilité future d'une mise en scène, tout simplement, au cinéma de cette histoire du sac du palais d'été. Alors avant d'entamer le sujet en lui-même, je souhaiterais, Bernard Brisé, vous poser la question rituelle. Comment êtes-vous arrivé à un tel sujet? Est-ce par passion de la Chine?
Oui, c'est par passion de la Chine, bien sûr. La première fois que je suis allé en Chine, c'était en 1979. C'était le premier voyage touristique, je dis bien touristique et non pas officiel ou semi-officiel, qui était autorisé en Chine. C'était grâce aux Amis de l'Orient, c'est-à-dire l'agence du musée Guimet. Et depuis, mon cœur et ma tête sont restés en Chine et j'y suis retourné à plusieurs reprises. Et il y a 6 ans maintenant, en l'an 2000, je suis retourné à Pékin, j'ai vu l'actuel palais d'été, qui est à côté de l'ancien palais d'été dont nous allons parler, cet ancien palais d'été qu'on appelle le Yuan Ming Yuan, le jardin de la clarté parfaite. Et après avoir visité donc l'actuel palais d'été, j'ai pris un taxi, je suis allé à 5 km de là voir les ruines du Yuan Ming Yuan. Et là, mon cœur s'est serré et pensant, en imaginant la destruction de ce palais qui était absolument extraordinaire, c'était le Versailles chinois. Et de retour en France, je suis allé dans les librairies spécialistes de la Chine, à Yufeng, rue Monsieur le Prince, et également boulevard de Sébastopol, le Phénix, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le sac du palais d'été. On m'a dit « rien ». Et en anglais, « rien non plus ». D'où l'idée, je me suis dit « pourquoi pas moi ?».
Pourtant, les témoignages et votre monographie le montrent, sont très nombreux. Il y a beaucoup de chroniqueurs de cet événement.
Oui, exactement. Et c'était une chance pour moi, parce que tous ces témoignages écrits au retour de l'expédition par des militaires, par des diplomates, par des interprètes ou des chroniqueurs, n'avaient été nullement exploités. Donc je me suis trouvé face à une matière absolument originale, extraordinaire et d'une infinie richesse. Alors j'en ai profité à mort, dirais-je, utilisant ces sources donc non encore exploitées, en français et en anglais.
Alors, on connaît plus ou moins parfaitement l'expédition de Bonaparte en Égypte. On connaît moins, si ce n'est pas du tout, cette expédition en Extrême-Orient. Pierre de Lagorce, que vous citez, historien du Second Empire, disait de cette expédition qu'il s'agissait d'une guerre fantastique par l'éloignement et surtout par l'imprévu. Comment expliquer cette différence de traitement entre cette expédition en Chine et toutes ces expéditions aventureuses telles que la Pérouse ou bien encore Bonaparte en Égypte.
Vous avez raison de faire la comparaison avec l'expédition de Bonaparte en Égypte. Malheureusement, l'expédition dont nous parlons, cette expédition anglo-française, j'y tiens, car les Anglais ont le leadership de cette expédition et laissons-leur la responsabilité de ce leadership. Cette expédition n'a pas été accompagnée, comme l'avait fait Bonaparte, d'une mission culturelle. Vous savez que l'expédition d'Égypte, lors de l'expédition d'Égypte, Bonaparte s'était entouré de nombreux savants qui, au retour, ont publié des albums absolument extraordinaires pour déchiffrer donc l'antique civilisation égyptienne. Rien de tel en Chine. Donc, c'est une pure expédition militaire, disons-le, une expédition colonialiste, une expédition impérialiste. De nos jours, ça nous paraît choquant.
Alors, venons-en, si vous le voulez bien, Bernard Brisé, au cœur même du sujet. Pourquoi la Chine, et pourquoi une telle entreprise qui, de prime abord, semble complètement folle? Nous sommes au milieu du 19e siècle. Comment se fait-il que la France, nous sommes sous régime impérial, aille si loin? L'Angleterre, on peut le comprendre, mais la France?
Oui, là encore, c'est une excellente question. Les Anglais, qui sont très money-minded, comme on dit, qui s'intéressent au commerce, y allaient pour de pures raisons commerciales. À savoir, l'Angleterre achetait à la Chine du thé, de la soie, des porcelaines, différentes babioles, et elle n'avait rien à lui vendre. Donc, la balance commerciale de la Grande-Bretagne était complètement déséquilibrée. Ils ont donc eu l'idée, géniale, dirons-nous, et scandaleuse, d'importer en Chine l'opium qu'ils produisaient aux Indes, dans le golfe du Bengale, et flattant le bon peuple chinois par son vice préféré. Et ils introduisaient l'opium par contrebande. Donc ce qu'ils voulaient, c'était introduire l'opium en Chine légalement et sur une grande échelle. Donc les Anglais y allaient pour des raisons commerciales. Les Français, eux, ça c'est tout à fait intéressant parce que ça prouve la différence de mentalité entre les peuples, les Français y allaient pour évangéliser les masses chinoises, pour y envoyer des missions, des missionnaires, bâtir des églises.
Oui, alors, de l'autre côté, nous avons donc la Chine. Quelle est cette Chine du milieu du 19e siècle? C'est une Chine qui suit le mouvement moderne ou au contraire qui reste recroquevillée sur elle-même?
C'est une Chine en pleine décadence. La grande période des temps modernes de la Chine, c'est le 18e siècle, avec des empereurs. Manchou, une dynastie Manchou, c'est une dynastie étrangère, et il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une dynastie chinoise qui, depuis 1644, s'est établie en Chine. Et le 18e siècle a été pour la Chine une période absolument extraordinaire. Voltaire en a parlé, et bien d'autres auteurs. Et en 1860, la Chine est en pleine décadence, c'est-à-dire que figée, recroquevillée sur elle-même, sans imagination, sans ressort, en proie à la corruption, elle est faible. Et qui dit faiblesse, dit tentation d'exploiter cette faiblesse. C'est ce qu'ont fait exactement les Anglais.
Vous parlez d'un malentendu, vous dites, si l'on considère l'histoire des relations entre les puissances occidentales et la Chine tout au long du 19e siècle, on est frappé par ce malentendu fondamental entre d'une part l'Occident et d'autre part la Chine. Quel est ce malentendu?
C'est le choc de culture, le choc de civilisation, comme aurait dit Alain Perfit. L'Angleterre est la plus puissante nation industrielle de l'époque. Elle est la reine des mers. Nous sommes sous la reine Victoria. Et la France également, en 1860, sous Napoléon III, connaît également un bel essor industriel. Et la Chine, elle, est figée. Donc, tentation d'exploiter, si vous voulez, cette faiblesse à des fins commerciales pour les Anglais, encore une fois, à des fins de prosélytisme religieux pour la France.
Je me permets de citer un passage du baron de Bazancourt, donc
qui est un des chroniqueurs.
Voilà, qui est un des chroniqueurs de l'époque. Il parle de la Chine de cette façon, en tous les cas des Chinois. Ce peuple étrange s'enveloppe dans l'étude et la vénération du passé, sans donner un jour, une heure, une pensée à l'étude du présent. Il a bâti de puissantes murailles pour se protéger à la fois contre l'envahissement des hommes et contre l'envahissement des idées nouvelles. Il craint que les barbares des autres nations, en entrant au cœur de l'Empire, n'y apporte cette fièvre fatale de progrès qui les dévore. Et si quelque chose le frappe, lorsque le bruit du dehors vient jusqu'à lui, ce n'est pas notre supériorité sociale qu'il est loin de comprendre et d'apprécier, mais le bouleversement que produirait chez lui notre esprit remuant et progressif. La Chine a réellement un problème d'identité, elle nous considère finalement comme des barbares.
Pour l'empereur de Chine, toutes les autres nations, tous les autres États sont des vassaux, des sujets. et l'empereur est au centre du monde et tout le monde doit reconnaître sa supériorité et lui verser des tributs en signe d'allégeance. Bien entendu, c'est une fiction, mais ils n'en sont pas conscients, les dirigeants impériaux. Et c'est pour ça qu'il y a un choc de nations. D'un côté, l'arrogance des nouveaux riches, disons, des Anglais, des Français, et de l'autre, l'arrogance culturelle, intellectuelle des Chinois qui sont persuadés d'avoir la plus belle, et ils ont raison d'ailleurs, la plus belle et la plus vieille civilisation au monde, une civilisation qui date de 4000 ans, ne l'oublions pas. Donc, en 1860, l'empereur de Chine considère qu'il est l'héritier de la plus belle, la plus grande, de la plus glorieuse des civilisations, et tous les autres ne sont que des barbares.
Alors, j'en viens justement à cette question de l'opium, d'ailleurs qui n'arrange pas en soi le statut des Occidentaux, qui sont d'autant plus barbares qu'ils apportent une drogue. C'est vraiment surprenant, hein. On n'en a pas conscience si on ne lit pas votre livre, c'est la mesure du trafic d'opium à cette époque. C'est véritablement une plaie de la société chinoise à cette époque.
C'est-à-dire que les Chinois sont tentés par l'opium. Ils le seraient toujours si ce n'était interdit. Mais les Anglais, encore une fois, ont été géniaux. Ils ont trouvé le point faible de la Chine. Et c'est que la Grande-Bretagne, l'Angleterre de la reine Victoria, est le premier État narco-trafiquant au monde. Imaginez que la Colombie actuelle, qui soit une grande puissance, elle pourrait envahir les États-Unis, qui serait une puissance faible, pour y écouler toute sa production d'opium. Voilà une comparaison qui peut, si vous voulez, faire comprendre le problème.
Et c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé.
Alors, comment réagissent les autorités chinoises par rapport à cet opium ? Elles tentent de l'interdire ?
Elles tentent de l'interdire, d'où le nom de ces guerres de l'opium. Il y en a eu trois. La première en 1840, qui s'est terminée par le traité de Nankin, donc a ouvert des ports aux puissances étrangères. C'était tout ce que demandaient les Anglais. Au lieu d'introduire par contrebande leur opium, en corrompant les mandarins chargés de maintenir, si vous voulez, les douanes et d'empêcher la pénétration d'opium sur leur sol, et les Anglais se satisfont dans un premier temps de l'ouverture de ces ports. Ils ont voulu aller plus loin, ils ont voulu pénétrer encore davantage dans l'Empire du Milieu, d'où une seconde guerre de l'opium en 1858 et cette troisième guerre de l'opium en 1860.
Alors vous citez toute une série de traités entre la Chine et le Royaume-Uni, traités entre les États-Unis, le traité de Nankin, le traité de Wangxia entre les États-Unis et la Chine, le traité franco-chinois de Whampoa. Ouais. Nous sommes en 1842, 1843, 1844, on a l'impression que par ces traités, la Chine perd peu à peu de sa souveraineté.
Ah, c'est tout à fait ça. Et ce n'est que le début d'un long processus. C'est ce qu'on appellera le partage du melon, ou le break-up, c'est-à-dire la dépossession de la Chine de sa souveraineté. Parce que les puissances étrangères vont s'installer dans des endroits, n'oubliez pas que l'Angleterre déjà possède Hong Kong, dans des endroits comme Shanghai et d'autres ports pour y installer des concessions. Qu'est-ce que c'est qu'une concession ? C'est un territoire qui échappe totalement à l'autorité, à la suzeraineté chinoise et qui est aux mains des puissances étrangères qui les dirigent, qui les gouvernent. Et c'est vrai surtout de Shanghai à l'époque.
Alors nous allons voir tout à l'heure quel rôle joueront également les Occidentaux à l'intérieur même de la Chine, puisque les Occidentaux interviendront dans la politique intérieure du pays. C'est ce que je vous propose de voir, Bernard Brisé, après une première pause. À tout de suite.
Qui ne connaît pas ces évocations insolites de monstres marins, grouillants de mollusques, de crustacés, de grenouilles, de gueules, de requins et autres créatures de la mer, prenant la forme de nez, de bouche ou d'oreille, pour en faire surgir le portrait allégorique de l'eau. Archimboldo a connu une immense gloire de son vivant. Il avait brillé à la cour impériale des Habsbourg, à Vienne, au XVIe siècle. puis il était tombé totalement dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle par les surréalistes. Redécouvrez la modernité de ce peintre dans notre émission Carrefour des Arts sur canalacademy.com.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Bernard Brisé, auteur du livre Le sac du palais d'été, seconde guerre de l'opium, paru aux éditions du Rocher. Alors, nous avons évoqué le contexte du sac du palais d'été. L'opposition entre les Occidentaux, d'autre part, d'une part les la Chine de l'autre, cette perte progressive de la souveraineté chinoise. Un élément très important tout au long de votre ouvrage est l'insurrection nationaliste et populiste. Et paradoxalement, alors que les Anglais et les Français viennent finalement pour obtenir beaucoup auprès des Chinois et qu'ils sont en lutte dans un cadre guerrier contre la Chine, eh bien ils vont aider la Chine à préserver une paix intérieure en luttant contre les nationalistes.
Alors ça, c'est la révolte des Taiping, la célèbre révolte de Taiping. C'est une révolte qui est partie de Canton, du sud de la Chine, avec à sa tête un illuminé total qui croyait qu'il était le descendant direct du Christ. Il s'imaginait être un chrétien. Et cette révolte des Taiping, qui entre parenthèses a fait 30 millions de morts, qui a commencé vers 1850 et ne s'est terminée qu'en 1863, a fait affaiblit considérablement le pouvoir impérial, qui était faible déjà et qui est encore plus faible à cause de cette rébellion qui est arrivée jusqu'à Nankin. Et les Anglais et les Français sont conscients donc de cette faiblesse à cause de cette révolte, de cette guerre civile, quoi, de cette révolte intérieure à la Chine, des Taiping, et ils vont profiter des circonstances effectivement pour pousser leur pion et envahir la Chine en toute impunité.
Et finalement, cet événement montre là, encore une fois, qu'il y a réellement une perte de souveraineté de la part du pouvoir chinois.
Alors, ça c'est le paradoxe des Taiping. Après l'expédition, là on fait un bond en avant si vous voulez, les Anglais et quelques Français resteront sur place pour aider le pouvoir impérial à vaincre cette insurrection des Taiping. Et c'est un épisode très connu de l'histoire de la Chine, et il y a énormément de livres en Chine sur cette révolte de Taiping, où il voit une révolte qui précède un petit peu la révolution de Mao Tse-tung, après la guerre civile qui a opposé Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung dans les années 1930 et 1940.
Alors qu'idéologiquement, elles semblent tout de même différentes.
Tout à fait différentes, oui. Avec un point commun, la Chine est un pays agricole. Donc, toute solution des problèmes passait par une grande réforme agricole, c'est-à-dire déposséder les landlords, les propriétaires terriens qui exploitaient donc la masse paysanne pour que les braves paysans aient leur lopin de terre et puissent en vivre sans être exploités.
Alors, venons-en à l'histoire chronologique. Deux événements majeurs vont provoquer cette intervention. D'une part, le martyr du père Chapdelaine, dont nous allons parler, et l'arraisonnement d'un bateau anglais qui transportait de l'opium, l'Arrow, qui crée une situation de conflit entre, d'une part, la France et l'Angleterre, et d'autre part, la Chine. Alors, que fut le martyr du père Chapdelaine et que fut cet arraisonnement de l'Arrow?
Alors, tout ça, ce sont des prétextes. Les Anglais et les Français ont besoin de prétextes pour intervenir en Chine. L'arraisonnement de Larro, c'était un bâtiment, une jonque chinoise qui portait pavillon britannique, qui a été arraisonné par les autorités chinoises. Les Anglais ont monté ça en épingle et s'en sont servis comme prétexte pour déclencher une nouvelle guerre. Quant au martyr du père Chapdelaine, c'est un missionnaire français qui a été horriblement torturé, j'en parle dans mon livre, c'est une torture à la chinoise, c'est-à-dire très complexe et très cruelle, et Lorsque la nouvelle est arrivée en France, Napoléon III a profité du scandale, si vous voulez, pour convaincre qu'il fallait agir en Chine pour venger le père Chapdelaine et introduire en Chine le christianisme.
Tout cela crée une réelle émotion, en tous les cas en France. En France, nous pensons beaucoup avec notre cœur.
Oui, les Anglais pensent avec leur porte-monnaie et les Français avec leur esprit. C'est toute la différence entre les deux peuples.
Alors très concrètement, il va y avoir un nouveau traité entre la Chine et l'Angleterre, le traité de Tientsin, qui est une nouvelle humiliation pour la Chine, mais très vite, il apparaît, et finalement c'est récurrent chez eux, il apparaît que les Chinois ne vont pas honorer leur signature et vont attirer les Français et les Anglais dans un guet-apens lors d'un affrontement au fort de Daku, c'est ça ?
Les forts de Daku. En fait, ce qui s'est passé, en 1858, les Français et les Anglais, qui sont emmenés par Lord Elgin, qui est le chef de l'expédition britannique, et l'ambassadeur français, le baron Gros, arrive à Tientsin et il négocie un traité. Le traité de Tientsin. Mais les Chinois n'ont nullement l'intention de respecter les termes de ce traité. Et pour les Chinois, ils ne disent jamais non, ils disent oui, oui. Et quand ils disent oui, oui, ça veut dire non. Et donc, un an plus tard d'abord, les Anglais et les Français arrivent au fort de Daegu, c'est-à-dire au nord de la Chine, dans le golfe du Pechili, pour remonter jusqu'à Tientsin. Et là, aux surprises, les Chinois les attendent avec une artillerie perfectionnée qui fait beaucoup de mal aux Anglais et aux Français. Une humiliation considérable. Il y a eu pas mal de morts, surtout du côté anglais.
C'est une réelle surprise du côté occidental.
Hein. Ils sont sidérés. Alors, ils se replient et ils décident, un an plus tard, donc d'envoyer, un an plus tard, une véritable expédition. Donc, c'est l'expédition dont je parle dans mon livre, cette expédition de 18 anglo-française de 1860.
Tout au long du livre, vous montrez l'alternance entre l'intervention militaire et, d'autre part, l'intervention des diplomates. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'il n'y a pas de diplomatie active, qu'il n'y a pas de pourparlers. Qui sont ces hommes, ces grands acteurs, ces militaires et ces diplomates dans l'expédition ? Il y a 4 ou 5 grands personnages qui interviennent régulièrement et qui sont à la tête de cette expédition.
C'est toute l'originalité de cette guerre. C'est une expédition militaire, mais en même temps, les chefs de l'expédition sont des diplomates. Car le but, c'est non pas de vaincre bien sûr, mais surtout d'établir des traités. Donc les chefs de l'expédition sont des diplomates. Côté anglais, il y a un personnage absolument extraordinaire qui s'appelle Lord Elgin. Lord Elgin n'est autre que le fils du Lord Elgin, qui a ramené en Angleterre, dans les brumes de la Tamise, les marbres du Parthénon. Assez frais. Donc, on dit qu'il a de qui tenir. Et c'était un personnage extraordinaire, flamboyant, on pourrait le comparer un peu à Churchill. Côté français, il y a un très honnête homme, le baron Gros, qui est le chef de l'expédition française, donc un diplomate, un ambassadeur. Côté militaire, les Anglais ont un amiral, l'amiral Hope, qui était également un personnage hors du commun, et un général en chef qui s'appelle le général Grant. Côté français, c'est ce qui nous intéresse surtout. Le général en chef français, le commandant en chef français, c'est le général Cousin Montauban, qui se fait appeler, il a des prétentions nobiliaires, Cousin de Montauban ou de Montauban. Et tous ces personnages, et ça a été un petit peu la découverte de mon livre, sont des gens extraordinaires. Et c'est pour ça que c'est un gros livre. J'ai découvert peu à peu que ces personnages étaient extraordinaires et qu'il fallait en parler. Au départ de ce livre, je voulais raconter tout simplement le sac du palais d'été, c'est-à-dire, nous y viendrons, la prise du Yuanmingyuan, le pillage et l'incendie du Yuanmingyuan. Mais l'expédition en elle-même est passionnante justement à cause de l'histoire de l'expédition et à cause de ces personnages extraordinaires qui sont à sa tête. Et récemment, à Pékin, au mois de septembre, j'ai eu l'occasion de participer à un colloque organisé à mon honneur par tout ce que la Chine compte de lettrés passionnés par le Yuan Minyuan, des historiens, des archivistes, des bibliothécaires, des paysagistes. Et ils m'ont dit quelque chose de très intéressant. Le sac du Palais d'été, on connaît, on sait ce que c'est. Mais ce que nous avons appris, ce que nous avons aimé dans votre livre, c'est ce que nous avons appris, à savoir les causes et les circonstances de cette expédition. Effectivement, nous allons bientôt arriver à Pékin, mais moi j'arrive à Pékin dans mon livre à la page 250 à peu près, vous voyez.
Oui, il y a vraiment, une... ça ressort d'ailleurs par rapport à l'expédition d'Égypte dont on parlait et que les auditeurs peuvent d'ailleurs découvrir dans la médiathèque de Canal Academy à travers l'interview d'Henri Laurence. Eh bien, l'expédition de Chine, elle, est parfaitement bien préparé.
Tout à fait. Et c'est une originalité de l'époque également. Parce que les Anglais ont le sens de l'organisation et les Français ne voulaient pas être en reste. Ils savaient que les Anglais savaient organiser des expositions. Ils voulaient faire de même. Et le général de Montauban, qui a donc préparé cette expédition, a tenu à ce qu'elle soit bien préparée. On peut lui rendre hommage. On en dit beaucoup de mal du général de Montauban, mais je considère que c'est un très grand militaire. Parce que c'est à la fois un organisateur et un gestionnaire. Il a été formé en Algérie et donc c'est un colonisateur, mais surtout un administrateur. Il sait commander, certes, mais il sait également organiser. C'est pour ça que le général de Montauban est le général français, le commandant en chef français, est un grand bonhomme.
Il y a peut-être un paradoxe dans cette expédition. Je vais citer le général Collineau, justement, sur les chefs, qui disait « Cette campagne n'a été qu'une longue suite de tergiversations, de discussions aigre-douces avec nos alliés. Il en est résulté des erreurs et des fautes. Il y avait 4 commandants indépendants, libres d'agir dans la plénitude de leur pouvoir. Du côté français, le général Montauban, commandant en chef de l'armée, et l'amiral Charnay, commandant en chef des forces navales. Du côté anglais, le général Grant et l'amiral Hope. Pour la moindre décision à prendre, il fallait l'accord de ces 4 volontés. C'était grotesque et désespérant. » Pourtant, malgré ce qu'a écrit le général Collineau, et ça c'est le paradoxe, c'est que l'expédition aboutit et elle arrive à ce que les engagements finalement du traité de Tientsin soient signés, et puis elle met à genoux le pouvoir chinois.
Cette expédition aurait pu très mal se terminer à de multiples reprises. Elle a eu beaucoup de chance. Cette expédition est née sous une bonne étoile. Encore une fois, elle aurait pu se terminer en catastrophe pour les Anglais et pour les Français. Or, c'est un succès militaire, il faut bien l'admettre, et diplomatique. Et c'est dû donc à la chance et également à la valeur des hommes qui la dirigeaient, qui étaient à sa tête.
Alors, je reviens tout de même sur les origines, puisqu'on a loué votre livre dans ce sens en Chine. Il existe en Chine, pour la France, une tradition évangélisatrice.
Ah, tout à fait, qui date des jésuites. D'abord, le père Ricci, qui était un Italien, qui vers 1600 a séduit les empereurs de la dynastie Qing. Et ensuite, enfin Ming d'abord, et ensuite les Qing. Et les jésuites étaient très présents à Pékin au XVIIIe siècle. La meilleure preuve, c'est que le père Castiglione, qui était un Milanais, un Italien, était excellemment introduit à la cour du célèbre empereur Qianlong, qui a régné pendant une bonne partie du XVIIIe siècle en Chine. Et c'est lui, justement, qui a fait construire au Yuan Minyuan, le palais d'été dont nous allons parler, des palais européens. Donc, imiter des palais occidentaux, italiens, français, autrichiens.
Alors, je passe à l'expédition en elle-même. Quels en sont d'abord les effectifs? Est-ce que c'est une grande armée en campagne? On se doute que l'Angleterre a beaucoup plus de facilité que la France, parce qu'elle a des troupes en Inde, ce qui n'est pas le cas de la France. La France, elle, doit faire un parcours beaucoup plus important.
C'est une petite expédition. Si l'on compare à l'expédition de Crimée qui a eu lieu 5 ans plus tôt, ou à l'expédition d'Italie, donc sous Napoléon III qui a eu lieu 2 ans plus tôt, c'est une petite expédition. À savoir 12 000 Anglais, 8 000 Français. C'est tout petit. Et parmi ces 12 000 Anglais, ces 8 000 Français, les combattants, il faut réduire de moitié le nombre, si vous voulez. Il y a peut-être 6 000 combattants anglais et 4 000 combattants français. Mmh. Donc c'est véritablement une petite expédition. Et tout simplement parce qu'on pensait que les Chinois, effectivement, armés d'arcs et de flèches et de lances, n'étaient pas capables de résister à des armées modernes bien entraînées avec des fusils et de l'artillerie.
Alors très concrètement, que veulent les Français et les Anglais? Que demandent-ils au pouvoir impérial chinois?
Les Anglais, ils y vont, donc, on l'a dit, pour introduire l'opium en Chine pour des raisons commerciales, pour commercer avec la Chine, qui est un marché immense. Et les Français, ils y vont également pour des raisons économiques. Vous savez que Napoléon III n'était pas du tout indifférent au développement économique, mais il voulait plaire aux catholiques français. Mmh. Et c'était leur donner, si vous voulez, un gage, un sucre d'orge, que de leur dire « on va en Chine pour évangéliser les masses chinoises ».
Les Anglais souhaitent que le fameux traité de Tianjin, qui a été remis en cause par l'affrontement dont nous avons parlé tout à l'heure, soit respecté.
Absolument. Il voulait arriver à Pékin. Encore une fois, comme je vous le disais, l'empereur de Chine, il se considérait comme l'empereur du monde. Et avoir des ambassades à Pékin, pour lui, c'était chose inacceptable. Mais justement, les Occidentaux, les Anglais, les Français, et bientôt les Américains, et tous les peuples, toutes les nations, vont vouloir avoir des ambassades à Pékin. Donc le but, c'était d'obtenir une ambassade à Pékin pour traiter d'égal à égal avec l'empereur, ce qu'il se refusait. Et en 1860, après le sac du Palais d'été, et après donc le traité de Pékin, il va y avoir des ambassades étrangères à Pékin.
Alors comment va se passer cette marche sur Pékin? C'est ce que je vous propose de voir, Bernard Brisé, dans un instant. Nous nous retrouvons, à tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Bernard Brisé, qui est venu au micro de Canal Académie, je l'en remercie, pour évoquer le sac du Palais d'été dans le cadre de la Seconde Guerre de l'Opium, un livre paru aux éditions du Rocher en 2003. Alors, nous avons donné le contexte de cette expédition, les effectifs, le but de cette expédition, donc qui est que ce fameux traité de Tianjin soit respecté. Comment se déroule la marche sur Pékin?
Alors, tout d'abord, les Français envoient donc les 8000 hommes. Ils partent de Toulon, de Brest, de Lorient, des différents ports militaires. Et ils vont partir par le cap de Bonne-Espérance. Et ils vont s'établir à Shanghai. Les Anglais, c'est beaucoup plus facile pour eux. Parce que ils ont des forces considérables aux Indes qui sont disponibles après la révolte anglaise. La révolte des Indes, la révolte des Sipayes. Et donc, les Anglais vont envoyer en Chine les forces qu'ils ont aux Indes. Et ils vont s'établir à Hong Kong. Donc, les Français à Shanghai et les Anglais à Hong Kong. Et les Anglais ont cette supériorité considérable, à savoir qu'ils ont une cavalerie. Car ils ont fait venir des Indes des régiments de cavalerie sikhs, donc, alors que les Français, ils n'allaient tout de même pas emmener en Chine des chevaux venant de France, les Français n'ont pas de cavalerie. Ils se débrouilleront simplement pour acheter au Japon, aux Philippines et ailleurs quelques chevaux pour traîner leur artillerie. Un point, c'est tout. Et également pour les officiers généraux, pour qu'ils puissent avoir des montures, des chevaux. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que c'est une expédition anglo-française. Le leadership est britannique, les Anglais sont plus nombreux et ils ont une cavalerie.
La progression des troupes se passe finalement très bien. On a l'impression, et là encore à la différence de la campagne d'Égypte, que les soldats peuvent tranquillement se ravitailler, progressent petit à petit, ils ne rencontrent quasiment aucune opposition dans leur progression jusqu'à Pékin.
Ce sont des troupes d'élite, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Pour les Français, c'était des volontaires et qui ont été choisis pour leur capacité militaire et également leur excellente santé physique, conditions physiques. Et les deux armées, donc les Français, les Anglais se sont regroupés d'abord à Hong Kong, les Français à Shanghai, et ils se sont regroupés dans le golfe du Pechili, au nord de la Chine, donc non loin de Tianjin, et ils ont débarqué ensemble, non loin des forts de Dagu, d'où ils avaient subi un grave échec l'année précédente. Alors là, ils ont pris les forts de Dagu, ça n'a pas été très compliqué, ils ont progressé, ils ont remonté le long du Beihou, c'est la rivière donc qui dessert Tianjin, ils sont arrivés à Tianjin, il y a eu une première bataille et une deuxième bataille très célèbre, s'appelle Palikao. Alors, Palikao a été remporté par les Français, par le général Cousin Montauban, tout simplement parce qu'un jour sur deux, c'était les Anglais qui menaient la marche et le lendemain, c'était les Français. Il se trouve là, ce jour-là, c'était les Français qui étaient en tête des colonnes et donc c'est eux qui ont supporté le plus gros effort de la bataille. Et Palikao, les 4000 Français sont heurtés à 30 000 cavaliers chinois, manchous, de très braves cavaliers, mais armés d'arcs et de flèches, de tromblons. Enfin bref, ils n'avaient pas un armement très meurtrier. Et les Français ont gagné la victoire de Palikao. Et le général Montauban sera fait plus tard comte de Palikao par Napoléon III. Alors, après Palikao, ils étaient à une quinzaine de kilomètres de Pékin. Et les Anglais et les Français apprennent que les Chinois avaient regroupé leurs forces devant le palais d'été, le Yuan Ming Yuan. Donc, rendez-vous est pris pour se rejoindre au palais d'été. Et là, il se passe quelque chose...
Entre
Anglais et Français. Il se passe quelque chose de très amusant. Ils se disent, rendez-vous devant le Yuan Ming Yuan. Les Français marchent et les Anglais se perdent en route. Alors, c'est très amusant. Donc, les Français arrivent tout seuls devant le Yuan Ming Yuan un soir à 7 heures et ils bivouaquent et ils commencent à piller le Versailles chinois, le Yuan Ming Yuan. Et les Anglais arrivent le lendemain en retard, puisqu'ils s'étaient perdus, et ils sont furieux, furieux contre les Français. Non pas parce que les Français ont commencé à piller, mais parce qu'ils l'ont fait sans eux.
Alors, il y a une chose qui est très importante dans votre ouvrage, c'est que vous définissez la notion de pillage, l'idée de pillage. Alors qu'en France, finalement, chez nous, il y a une notion très péjorative, en Angleterre, il y a une codification du pillage.
Tout à fait. Les Anglais ont l'habitude, comme on dit, de se payer sur la bête. C'est-à-dire que quand il y a une guerre, une expédition, on rembourse les frais et on pille allègrement le pays, mais d'une manière très organisée, ils en ont l'habitude. Les Français, eux, ils font ça un peu n'importe comment, comme des amateurs, vous voyez. Donc il y a une longue tradition britannique du pillage, et on le verra ensuite en Afrique, en Éthiopie, dans d'autres pays, alors que les Français ne savent pas bien piller. Ils sont maladroits dans ce domaine, ils ne savent pas faire.
Il y a un événement que nous n'avons pas évoqué, qui est un événement en amont du sac du palais d'été, en tous les cas du pillage. C'est ce que vous appelez le tournant du 18 septembre, qui est capital dans l'histoire du sac du palais d'été. Il y a une bataille, mais moins... ce qui est important, c'est moins la bataille qu'une prise d'otage. Une prise d'otage français et anglais, alors pas grand monde, une trentaine de personnes, mais ces personnes qui étaient envoyées en ambassade, finalement, deviennent du jour au lendemain des otages. Et c'est ce qui va provoquer, à terme, la fureur des Français et des Anglais.
Tout à fait. Parlons de ce qu'on appelle, ce qu'il est communément admis, d'appeler le guet-apens. En fait, tous les historiens, et même jusqu'à nos jours, continuent à parler du guet-apens dans lequel seraient tombés quelques diplomates et officiers anglais et français. Et entre parenthèses, ces diplomates, la moitié sont morts sous d'affreuses tortures et les autres qui en ont réchappé en très mauvais état. En fait, il n'y a pas eu de guet-apens. Si vous voulez, c'est ce que j'apporte dans mon livre parce que j'ai étudié la question. Tout simplement, il y a eu des prisonniers de guerre qui ont été maltraités. Il y avait pas de guet-apens, c'est-à-dire d'acte prémédité de prendre en otage des Français, des Anglais qui étaient couverts par le drapeau diplomatique, le drapeau blanc. Ils étaient là en reconnaissance, c'était une période de trêve et ils ont été faits prisonniers. Et les Anglais, surtout, vont se servir donc de ce guet-apens qu'ils vont monter en épingle à fin de propagande pour légitimer leur action future.
Vous dites, il y a une inquiétude sur les otages qui devait dégénérer en angoisse et une fureur en obsession. Est-ce que le sac du palais d'été n'est-il pas la conséquence de cette fureur et de cette obsession?
Le sac du palais d'été, dans sa première phase, proprement dit, non. Dans la seconde phase, alors, il y a deux dates là. Le sac du palais d'été, c'est d'abord le pillage. Sac, ça veut dire pillage et acte de vandalisme. Et comme je vous le disais, les Français ont commencé à piller, les Anglais sont arrivés, et on a organisé tout ça avec une commission anglaise et une commission française qui ont organisé le pillage. Et à ce moment-là, on a découvert, enfin, les otages survivants sont réapparus. Et les otages morts, les corps ont été rendus. Alors ça a soulevé une indignation considérable dans les deux armées de voir qu'il y avait eu des otages pris sous le drapeau diplomatique qui étaient morts des sévices abominables. J'en parle dans mon livre, je décris leurs souffrances. Et également les survivants qui étaient dans un état lamentable. Le comte de Sirat de Lauture, par exemple, qui était le seul savant français qui faisait partie de l'expédition, a eu les mains complètement abîmées tellement à cause des tortures, parce que il avait les mains liées par des cordes de chanvre qu'on arrosait histoire de resserrer donc les cordes. Et il ne s'en est jamais remis, ce comte d'Escayrac de Lauture. Il mourra quelques années plus tard des suites de ses blessures. C'était un homme brisé. Et donc, ça a été un événement considérable dans l'armée. Et les Anglais, furieux, mais hors d'eux devant ces prises d'otages, les souffrances des otages survivants et les otages morts, ont décidé d'incendier le Yuan Minyuan. Donc ça s'est fait en deux temps. D'abord le pillage. Ensuite, les Anglais, pour punir l'empereur, Lord Elgin a décidé de punir l'empereur en se disant « Si je brûle le Yuan Minyuan, si je le rase au sol, ça va servir de leçon à l'empereur et le peuple sera épargné. » Grave erreur, car aujourd'hui en Chine, on parle du sac du Yuan Minyuan. Tous les jeunes Chinois apprennent cela dès l'école primaire. Il n'est pas un Chinois qui n'ait entendu parler du Yuan Minyuan. Mon livre a été traduit en Chine. Il se dirige allègrement vers plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus, tout simplement parce que tous les Chinois sont au courant de cette histoire que nous, nous tentons d'occulter et d'oublier. Vous me demandez pourquoi j'avais écrit ce livre. Mais moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas eu de livre d'abord sur le sac du palais d'été. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de quoi se vanter. Nous devons avoir honte, les Anglais et les Français.
Mais malgré tout, les Français, vous le montrez, sont contre l'incendie du palais d'été.
Tout à fait. Alors, les Français ont participé au pillage. Ce sont les Anglais, leur seule responsabilité, Lord Elgin et le général Grant, de brûler le Yuan Minyuan, de l'incendier. Le Yuan Minyuan, c'était un ensemble d'une centaine, 150 palais dans un immense parc qui avait été créé au cours des siècles du 18e siècle par trois grands empereurs chinois, Qianxi, Yongzhen et surtout Qianlong. Et c'était absolument extraordinaire car c'était des jardins. C'était des jardins avec des lacs artificiels, des collines artificielles et des palais un peu partout. Des palais absolument luxueux, fabuleux. Donc, à piller, c'était absolument extraordinaire. Il y avait des richesses qui ont été amassées au cours des siècles. Fabuleuses. Et pour les Français, piller ça, c'était inouï. Pour les Anglais aussi. On ne dit pas, mais enfin, les frais de l'expédition anglo-française ont été couverts, je dirais, 10 fois sans doute, par ce pillage.
Il y a, on reparle peut-être de cette codification du pillage. Les Anglais ont cette codification et demandent à ce que tout ce qui a été pris, en fait, soit remis aux autorités anglaises pour après mettre en place une vente aux enchères.
Oui, alors c'est là encore, les Anglais sont très organisés. Les Français y pillent, c'est-à-dire qu'ils emmènent les trésors, tout ce qu'on peut imaginer, des brûle-parfums, des meubles, des porcelaines. Et ce qu'ils ne peuvent pas emporter parce que c'est trop volumineux, ils le cassent. Un pur acte de vandalisme. C'est ça qui est scandaleux du côté des Français et ça va écœurer les Anglais qui se disent « Mais quel gâchis !» Alors, il y a une commission, une double commission qui se met sur pied et on se partage le butin. Et l'armée française va emporter plein de trésors, plein de belles choses, dont ils vont faire cadeau à l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, qui était la marraine de l'expédition. Et les Anglais vont faire de même, ils vont faire des tas de cadeaux à la reine Victoria. Et le fruit de ce butin, on peut aller le voir, et je vous invite à le faire. Bien sûr, on en trouve au musée Guimet ou ailleurs.
Aux Invalides.
Mais aux Invalides également. Mais surtout au musée chinois de l'impératrice Eugénie au château de Fontainebleau. Quant au le fruit du pillage anglais, on le retrouve au British Museum à Londres, au Victoria et Albert Museum et surtout dans les collections de la reine d'Angleterre, mais on ne les connaît pas. Je suppose que la reine d'Angleterre, même si elle ne le sait pas, doit avoir dans ses différents palais et châteaux des tas de trésors ramenés du Yuan Min Yuan dont elle ignore même l'existence.
Bernard Brisé, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Le Sac du Palais d'été, Seconde Guerre de l'Opium, aux éditions du Rocher. Nous nous retrouvons dans un instant pour la dernière partie de notre émission.
Révisez vos connaissances sur Canal Académie avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au sac du Palais d'été. Bernard Brisé, vous êtes l'auteur du livre Le Sac du Palais d'été, Seconde Guerre de l'Opium, paru aux éditions du Rocher. Alors nous avons évoqué ce sac, cette expédition militaire, cette expédition avait un objectif qui était le respect d'un traité. Est-ce que les Anglais et les Français obtiennent ce qu'ils souhaitent ?
Alors, lorsque les Français et les Anglais ont pénétré dans le Yuan Min Yuan, l'empereur, dont c'était la résidence préférée, s'est enfui. Il est parti de l'autre côté de la Grande Muraille, dans d'autres palais qu'il possédait au nord, donc en Mandchourie, au nord de la Grande Muraille et au nord de Pékin. Et il a chargé son demi-frère, le prince Gong, de négocier avec les alliés, les Anglais et les Français, pour obtenir un traité de paix. Et ce demi-frère s'appelle le prince Gong. Et je vous disais qu'il y avait des personnages extraordinaires dans cette histoire, le Lord Elgin, le général Grant pour les Anglais, l'amiral Hope, et pour les Français, le baron Gros et le général Cousin Montauban. Mais côté chinois, il y a des personnages extraordinaires également, dont le prince Gong. Le prince Gong est jeune. C'est le demi-frère de l'empereur, il a 26 ans, et c'est un homme d'une intelligence prodigieuse, et on peut dire que c'est lui, en concluant la paix, en réussissant à établir la paix, à sauver la dynastie des Tsing. Sinon, les Anglais auraient sans doute mis à bas la dynastie des Tsing, et peut-être qu'ils se seraient alliés avec les Taiping, les rebelles, pour régenter la Chine.
Donc, Anglais sur le plan commercial et sur le plan de l'influence politique et Français sur l'influence religieuse obtiennent gain de cause.
C'est le traité de Pékin, c'est la convention de Pékin. Par cette convention, les alliés, les Anglais et les Français obtiennent tout ce qu'ils veulent. Bon, d'abord, le libre accès aux ports, différents ports, sur la côte donc de la mer de Chine, pour pouvoir y introduire toutes leurs marchandises. Également des ambassades à Pékin, et pour les Français, donc le droit d'établir, comme ils l'entendent, des missions un peu partout en Chine. Le tout assorti d'une énorme indemnité de guerre, énorme, considérable, que la Chine mettra des années et des années à régler. Et là encore, c'est si vous voulez, se payer sur le dos de la bête. Les Anglais sont coutumiers de ça. Quand on, dans toutes les guerres du monde, le vaincu doit payer cher, si vous voulez, le fait d'être vaincu.
Alors vous montrez vraiment le détail des négociations et de la signature, le protocole, le prince Gong qui doit s'asseoir en même temps que son homologue anglais. Les Anglais d'ailleurs se montrent très froids. À la différence, ils ont encore le souvenir des otages, tandis que les Français, eux, j'allais dire, signent la paix avec un esprit plus pacifique, si je puis dire.
Ça aussi, les Anglais, comme vous dites, sont très froids. Les Français sont plus humains, un peu plus sentimentaux. Et le baron Gros est un humaniste. Les Anglais, le mot humaniste, ils connaissent pas vraiment.
Alors, quelle est la répercussion, on l'a dit tout à l'heure, hein, par exemple, dans le cas du père Chapdelaine, un des prétextes de l'expédition était le massacre de ce prêtre, de ce père. Là, cette fois, après le sac du palais d'été, il y a de vives réactions et en France et en Angleterre. Et chacun, en quelque sorte, se renvoie à la responsabilité.
Oui, alors ça, c'est très intéressant également. Les Français, le général de Montauban, il retourne en France, il s'attend à être honoré, adulé, encensé. Pas du tout. On l'accuse de s'être enrichi d'une manière scandaleuse. Personnellement, Napoléon III, lui, est conscient que le général de Montauban a été un grand général, qu'il a bien mené l'expédition. Mais l'opposition au Second Empire se dresse, si vous voulez, contre ceux qui reviennent chargés d'or et de trésors. Ça fait partie de la jalousie française. Donc en France, le retour de général de Montauban se passe très mal. Alors qu'en Angleterre, Lord Elgin et tous les généraux sont accueillis, fêtés, encensés. Là encore, il y a une réaction tout à fait différente à Paris et à Londres.
Vous racontez il y a de nombreuses anecdotes, hein, vraiment dans votre ouvrage. Il y a notamment ce chapelet qui a été offert à l'impératrice Eugénie, qui va être le sujet d'une grande polémique.
Alors effectivement, on trouve différents colliers dans une cage du Yuan Yuan, et on en fait cadeau au général de Montauban, qui lui-même les remet à l'impératrice Eugénie. Ce sont des babioles, hein, mais on va se saisir de ce prétexte, donc du collier, non pas de la reine, mais de l'impératrice, pour tomber à bras raccourcis sur le général de Montauban. Et ça, c'est typiquement français, si vous voulez, de se dénigrer, déjà, vous voyez, en ce moment, on le dit. Et il y a une commission d'enquête sénatoriale qui va blanchir Montauban, mais ça va lui faire beaucoup de mal.
Quelles conséquences eut cette guerre sur la Chine ?
Pour la Chine, c'est une conséquence dramatique, considérable et définitive. À savoir que c'est le début du partage du melon, du partage de la Chine. À partir de ce moment-là, 1860, la Chine va cesser d'être un État souverain. Et elle va perdre en indépendance. Et toute la rancœur actuelle de la Chine, qui date donc de Mao Tse-tung et qui dure encore, d'un pays qui a été bafoué et humilié, vient de là. Donc les conséquences sont incalculables et elles durent encore. La meilleure preuve, c'est que quand il y a des problèmes des nations, on évoque encore en Chine. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelques années, lorsque Pékin a été choisi pour abriter les Jeux Olympiques de 2008, l'ambassadeur de Chine en France, Hu Jintao, a été invité chez Jean-Pierre Alcabache un soir à 8h30, là, sur Europe 1, un matin à 8h30 sur Europe 1. Et Jean-Pierre Alcabache, pour dire quelque chose, a dit « Oh, il y a une grande tradition d'amitié entre la France et la Chine ». Sans doute pensait-il à la reconnaissance de la Chine de Mao Tse-tung par le général de Gaulle en 1963, et l'ambassadeur de Chine, en 1860, il y a eu le sac du palais d'été. Alors la grande tradition d'amitié entre la France et la Chine, on ferait mieux de pas en parler.
Ce dont on parlait en début d'émission sur la coupure qui existait au 19e siècle entre l'Occident d'une part et la Chine, finalement se maintient et est consolidé à cause de ce sac.
Oui, et autre, mon livre, je suis allé à Pékin pour le lancement de la traduction chinoise du livre au Salon du Livre de Pékin en septembre dernier. Et pour mon livre, c'est très bien tombé parce qu'on était en pleine tension entre le Japon et la Chine. Et j'ai été interviewé dans des émissions de radio, de télévision, de la presse écrite, etc. Tous les journalistes me posaient cette question. Ah, vous, les Français, enfin me disait, vous, les Français, vous battez la coulpe, vous reconnaissez vos torts et vos erreurs, alors que les Japonais et le premier ministre japonais Yashiro Koizumi refusent de reconnaître le massacre de Nankin en 1937 et refusent de reconnaître les crimes de guerre du Japon en allant se recueillir au cimetière là qui abrite des grands criminels de guerre.
Il y a, même par rapport au Japon, finalement c'est le contre-exemple, parce que le Japon semble avoir pris le pli moderne que la Chine, elle, n'a pas su prendre.
Alors ça, le Japon a été intelligent, entre guillemets, il a connu son ère Meiji, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on est mal parti parce que nous sommes faibles. Le meilleur moyen de résister aux envahisseurs, aux colonialistes, aux impérialistes, c'est de devenir fort. Pour ça, il faut les imiter. Il faut adopter leur méthode, à la fois de gouvernement et militaire et industriel. Et c'est ce que la Chine n'a pas compris, n'a pas voulu comprendre.
Eh bien, Bernard Brisé, c'est sur ces mots d'histoire comparative que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie d'un jour dans l'histoire. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Le Sac du Palais d'été, Seconde Guerre de l'Opium, paru en 2003 aux éditions du Rocher. Les sinologues peuvent lire votre ouvrage en chinois et les anglophones bientôt en anglais, puisqu'il va être traduit aux États-Unis. Merci beaucoup.
Et c'est moi qui vous remercie.
Et à très bientôt.